Bonjour et bienvenue à la saison 3 du balado Écoutez votre cœur, où nous continuerons d'explorer la prise en charge clinique des patients à risque élevé qui sont atteints de maladies cardiovasculaires établies. Je suis Dr. Lior Bibas, cardiologue intensiviste et votre animateur. Pour cet épisode intitulé « Au-delà des ADL, le rôle et les effets de la lipoprotéine A sur le SCA », je suis accompagné de mon collègue cardiologue et hémodynamicien Dr. Michael Lévy. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui.
Merci, Lior, pour cette occasion, pour qu'on puisse discuter des maladies cardiovasculaires et ainsi le rôle de la dyslipidémie ainsi que de la lipoprotéine A sur les effets cardiovasculaires.
Ben, merci, Michael, de te joindre à nous. Alors, j'ai quelques questions pour toi et on réponds-les. J'ajouterai qu'est-ce que je pourrais en plus et dans le but d'un petit peu d'avancer nos connaissances sur la lipoprotéine A et instruire le plus de monde possible. Alors, ma première question pour toi, Michael, Dr. Lévy, durant de nombreuses années, le cholestérol LDL a été au cœur de la maîtrise lipidique. Peux-tu nous aider à comprendre ce qu'est la lipoprotéine A au juste et en quoi elle est différente du cholestérol LDL?
Une excellente question, Lior. Et en fait, la lipoprotéine A a été un marqueur un peu sous-utilisé dans les dernières années. Et puis, récemment, on a fait de plus en plus d'avancées pour un petit peu décrire cette lipoprotéine et de voir quels sont ses effets au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est en fait une particule de graisse du mauvais cholestérol, qui est une forme aussi de lipoprotéine en elle-même, communément appelée le LDL, c'est un anglicisme pour Low Density Lipoprotein, le mauvais cholestérol. Et puis, dans cette lipoprotéine A, il y a une composante de apolipoprotéine A, ainsi qu'une petite composante de ApoB100. Et puis, cette molécule est déterminée génétiquement. On ne peut pas vraiment moduler les doses de lipoprotéine A avec les changements alimentaires ou bien même avec les statines. Jusqu'à au moins récemment, on n'a pas pu moduler cette lipoprotéine A. Donc, c'est un nouveau marqueur. Et puis, je pense que dans les années à venir, ça sera très intéressant de voir comment la science va pouvoir faire avancer les choses et peut-être éventuellement, espérons-le, de diminuer les effets des événements cardiovasculaires chez les patients à risque.
Merci pour ce topo, Dr. Lévy. Alors, comme tu l'as bien dit, la lipoprotéine A est une particule de lipoprotéine qui a des propriétés pro-athérogènes et pro-thrombotiques. C'est une valeur qui est génétique. Alors, contrairement aux autres valeurs du bilan lipidique classique, entre guillemets, c'est une valeur qui est déterminée et qui n'est pas modifiée par la prise de statine ou par la diète ou l'exercice. Maintenant, la question que j'avais pour toi, c'est quelles sont les conséquences cliniques d'un taux de lipoprotéine A élevé? Et puis, est-ce que, selon les populations qu'on évalue au jour à jour, il y a la population en prévention primaire, c'est la population chez qui ils n'ont pas encore manifesté d'événements cardiovasculaires, ils n'ont pas fait d'AVC, ils n'ont pas fait d'infarctus, mais on veut le prévenir à tout prix. Et en revanche, on a aussi la population en prévention secondaire qui a déjà fait un événement, qui ont déjà peut-être fait une crise cardiaque ou un AVC, chez qui aussi on veut soigner leur cholestérol pour prévenir d'autres événements. Peux-tu un petit peu nous parler des conséquences cliniques d'un taux de lipoprotéine A élevé dans nos patients?
Merci, Lior, pour cette question. Un taux élevé de lipoprotéine A confère un risque accru chez les patients, que ce soit en prévention primaire et en prévention secondaire. Donc là, on parle de soit maladie coronarienne avérée, maladie vasculaire athérosclérotique, des patients qui ont fait des AVC, des ICT, des syndromes coronariens aigus, des syndromes vasculaires aigus. Et en fait, pour la population générale, en prévention primaire, tout patient, comme c'est bien écrit dans les recommandations canadiennes, à plus de 40 ans, devrait avoir un bilan lipidique en termes de dépistage et au moins de doser une fois dans leur vie la lipoprotéine A pour savoir un petit peu quel est leur bagage génétique quand il s'agit de maladies coronariennes ou de maladies vasculaires tout court. Donc, tous ces patients-là, que ce soit prévention primaire ou secondaire, devraient avoir un dosage de lipoprotéine A pour un petit peu conférer un risque, soit élevé, modéré ou même bas, indépendamment bilan cholestérol habituel qu'on dose l'ACOB, le LDL et le non-HDL.
D'accord, intéressant. Alors, si je comprends bien, dans ta pratique, quand le patient fait son premier bilan lipidique, disons après l'âge de 40 ans, tu ajoutes une lipoprotéine A. Est-ce que tu le fais aussi chez les patients qui ont déjà fait un infarctus, chez qui tu as déjà un bilan lipidique au dossier?
Donc ça, c'est une excellente question, parce que la grande question qui demeure, c'est que faisons-nous avec un taux élevé de lipoprotéine A, malgré des niveaux de LDL et de non-HDL qui sont à cible. Donc, comme les recommandations canadiennes le suggèrent, avoir un niveau de LDL en bas de 1,8 et non-HDL en bas de 2,4, ben, si un patient récidive à faire un infarctus ou un événement ischémique quelconque avec ces niveaux qui sont déjà atteints, toutefois, avec une lipoprotéine A plus élevée, ben, on sera encore plus agressif pour traiter ces patients-là, peut-être même traiter avec des niveaux de LDL même en dessous de 1 millimol par litre pour essayer de diminuer les événements cardiovasculaires à la longue. Donc oui, ces patients-là, je les traite encore plus agressivement qu'un patient qui a un niveau de lipoprotéine A qui est dans les limites de la normale, par exemple.
D'accord. Alors vraiment, c'est un outil de stratification que moi aussi, j'aime utiliser tant en prévention primaire qu'en prévention secondaire, parce qu'il nous dit vraiment que c'est des patients que malgré, on va dire, en prévention primaire, malgré leur score de Framingham, ben si le Framingham est bas, mais la lipoprotéine est élevée, donc ça veut dire que peut-être on n'est pas capable d'attraper le risque avec le test. Et donc, on est un petit peu plus agressif en prévention primaire et aussi en prévention secondaire aussi. Je me demandais, alors, disons que tu as un patient que tu soignes qui a une dyslipidémie en prévention secondaire, ça veut dire qu'il a fait son infarctus. C'est quoi les médicaments que tu vas soigner, que tu vas commencer chez ces patients-là? Disons, peu importe la lipoprotéine A, et qu'est-ce que tu vas faire dans les cas où la lipoprotéine A est plus élevée ou anormale?
Donc, je pense que pour tout patient qui fait un infarctus, tout d'abord, ça commence par les traitements non pharmacologiques, donc le changement des habitudes de vie. Donc, si le patient fume, il faut qu'il arrête de fumer. La consommation d'alcool, l'exercice physique, un petit peu comme c'est recommandé dans nos recommandations. Mais ensuite, je pense que la règle générale, c'est des doses de statine qui peuvent être tolérées de façon maximale. Donc, même si le patient est, on va dire, Crestor 20 mg avec un taux de LDL qui est bas, ben, si on peut augmenter à 40 et que le patient le tolère, ben, on maximisera la dose de statine. Les étrols, pour les patients qui ont des récidives d'infarctus, on peut donner même du Vascepa. Et puis, bien évidemment, les PCSK9. Donc, tout ça est notre arsenal thérapeutique pour les patients qui font des infarctus et encore plus ceux qui font des infarctus avec des taux de lipoprotéine A qui sont très élevés. Et puis, entre autres, certains patients qui présentent aussi des dyslipidémies familiales, comme l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Ces patients-là aussi, on va les traiter très agressivement. Et bien évidemment, les patients qui récidivent au laboratoire d'hémodynamie avec des thromboses de stent ou qui ont des tuteurs médicamentés sur plus qu'une artère ou avec des bifurcations, c'est patients-là, on les traite plus agressivement avec des statines pour viser des niveaux du LDL et non-HDL qui sont très bas.
D'accord. Et puis, alors, statine, ezetimib, si on est hors seuil, on essaye de faire passer un inhibiteur de PCSK9. Tu as parlé du Vascepa
oui.
Dans les cas d'hypertriglycéridémie. Maintenant, est-ce que ces traitements-là, est-ce qu'ils ont un impact sur la lipoprotéine A? Est-ce qu'on a des traitements qui agissent directement sur la lipoprotéine A? Est-ce qu'on en a?
Donc, ça, c'est une excellente question. Et puis, comme il dit, c'est un peu, en parenthèse, l'anglicisme, the new kid on the block. En fait, les statines, les étrols, le Vascepa n'affectent pas les niveaux de lipoprotéine A. Les PCSK9 jouent et vont faire diminuer, il me semble, légèrement la lipoprotéine A. Présentement, nous avons deux groupes de traitements qui peuvent faire diminuer les taux de lipoprotéine A. Nous attendons encore les essais cliniques randomisés. En fait, elles sont en cours pour les impacts, les issues qui sont significatives pour nous en tant que cliniciens, donc pour faire diminuer les événements cardiovasculaires à long terme. Donc, il y a les inhibiteurs d'ARN messager petit, donc tout ce qui est inclisiran, vutriciran. Et puis, il y a aussi maintenant aussi qui sont à l'étude les antisènes oligonucléotides comme le pelacarsène qui est à l'étude avec Horizon 3 pour voir s'il y a des effets bénéfiques au niveau cardiovasculaire. Ces deux classes de molécules font diminuer la lipoprotéine A de l'ordre de 80 à 90%, du moins dans les études de phase 1B et 2 avec sans trop d'effets secondaires.
D'accord. Et alors, pour le moment, on n'a pas de traitement ciblé sur la lipoprotéine A, mais peut-être dans les prochaines années, on aura des études randomisées de phase 3 qui vont sortir, on l'espère toujours en cardiologie, avec des résultats bénéfiques, pas seulement sur... On ne veut pas juste baisser la lipoprotéine A, on veut sauver des vies, on veut améliorer la survie, on veut éviter les infarctus. Alors, il faudrait un petit peu rester à l'affût des nouvelles et voir si dans quelques années, on aura ces médicaments-là. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire, est-ce que tu as un exemple clinique en tête où le résultat de l'hypoprotéina, par exemple, a vraiment changé ton approche, peut-être tes recommandations envers le patient et ta prescription pharmacologique?
Donc, c'est une excellente question parce que nous n'avons encore pas vraiment l'arsenal thérapeutique dont on aimerait avoir pour pouvoir traiter ces patients-là. Donc, la grande question, c'est on fait quoi avec les résultats? Mais certainement, deux patients, soit un patient de 55 ans qui fait un infarctus, un stémie antérieur, on lui pose un stent et son niveau de lipoprotéine A est pratiquement indétectable. On va traiter selon le bilan lipidique des recommandations canadiennes. Si on va dire que ce même patient-là présentait une maladie des trois vaisseaux et qu'on va dire qu'il n'était pas admissible à se faire ponter, ou bien si on va dire qu'il était admissible à se faire ponter, ben on traiterait la dyslipidémie de façon très agressive. Et en admettant que ce patient-là avait une lipoprotéine A qui serait très élevée, probablement qu'on continuerait prise de statine, la prise potentielle de DAPT à long terme, et on serait beaucoup plus agressif chez ces patients-là pour essayer d'atteindre des niveaux du LDL et de non-HDL qui seraient très bas. Versus, en prévention primaire, un patient qui se présente à la clinique pour un dépistage de dyslipidémie avec un bilan cholestérol qui est sans particularité et un haut niveau de lipoprotéine A, à part lui prescrire une statine, je ne pense pas que je ferai autre chose. Peut-être est-ce qu'on va dépister génétiquement ses frères et sœurs ou bien ses enfants? Ça serait une question parce que c'est déterminé génétiquement la lipoprotéine A. Donc, en prévention primaire, pas tellement. En prévention secondaire, certes que on traiterait très agressivement ces patients-là parce qu'ils sont à risque de faire des deuxièmes, des troisièmes et des quatrièmes événements cardiovasculaires au cours de leur vie, surtout s'ils sont jeunes.
D'accord. Alors, la lipoprotéine A, je suis d'accord avec toi. Moi, je la vois comme vraiment un marqueur de stratification. On en a plusieurs en prévention primaire. Aux États-Unis, ils font de plus en plus de scores calciques. Il y avait la CRP à haute sensibilité qui était très à la mode il y a quelques années. Mais de plus en plus, la lipoprotéine A a vraiment ce rôle comme marqueur de stratification supplémentaire chez les patients, des fois qu'on hésite à commencer une statine en prévention primaire, ou chez les patients qui ont déjà fait un événement, que peut-être on aurait été satisfait de leur bilan lipidique, mais en voyant une lipoprotéine A élevée, on se dit, ben, peut-être il y a de la place à augmenter la statine ou ajouter de l'ézétimibe afin de vraiment aller plus bas et d'être plus agressif. Avant de terminer, je voulais savoir, est-ce que chez tes patients que tu demandes une lipoprotéine A, est-ce que, par exemple, si ça devient élevé, comment tu leur expliques, comment tu vulgarises à tes patients ce que ça veut dire? Parce que déjà, on mêle souvent nos patients entre bon cholestérol, mauvais cholestérol. Est-ce qu'il y a une façon que tu leur expliques qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une lipoprotéine élevée? Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux à moyen et long terme?
C'est sûr que je leur dis qu'une lipoprotéine élevée, je leur manifeste que c'est un mauvais cholestérol qui est élevé et que nous n'avons pas encore d'arsenal thérapeutique pour traiter ça. Et je leur dis un petit peu, c'est comme leur âge. Leur âge est un facteur de risque qui est non modifiable, du moins. Donc, Je pense que les patients, malheureusement, s'en prennent à eux-mêmes et essayent de traiter ou bien essayent de vulgariser ça d'une manière où ils sont capables de faire mieux pour eux-mêmes, aller faire du sport, faire de l'exercice physique. Et puis, j'essaie de leur expliquer que malheureusement, ce n'est pas des choses qui vont affecter leur sort, du moins pour ce marqueur de mauvais pronostic. Donc, j'essaie de leur expliquer que c'est un petit peu comme leur âge. Le plus ils sont âgés, le plus c'est un facteur de risque pour avoir une maladie coronarienne ou une maladie cardiovasculaire, mais qu'éventuellement, la science va faire ses avancées et puis on pourra éventuellement un jour avoir des molécules. En fait, on les a. On attend juste qu'ils nous démontrent qu'il y a un effet bénéfique au niveau cardiovasculaire pour améliorer le sort de ces patients à long terme. Donc, j'essaie de ne pas leur mettre la responsabilité sur leur dos et que c'est à eux de faire ci et ça pour essayer de faire diminuer leur risque. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile à répondre quand les patients me demandent ce genre de questions-là, mais on essaie de les encourager malgré ça parce que ça va faire une cinquième ou sixième pilule à prendre parce que nous savons que ces molécules-là, les antisenseurs du polygonucléotide et les inhibiteurs d'ARN messager sont des médicaments qu'on donne par injection. Donc, imaginez que le patient prend la statine, les étrols, le vacépal, le PCSK9, et là, on va rajouter un cinquième médicament, donc ça fait beaucoup. Donc, l'observance sera un enjeu, mais au moins, ce sont des médicaments qu'on donne, bon, il y en a un une fois par 3 mois, une fois par 6 mois, l'autre une fois ou 2-3 semaines, donc au moins ça. Mais c'est sûr que c'est un défi pour les patients, et aussi pour nous, en tant que cliniciens.
Je me suis dit, avant de terminer, on va peut-être revoir le rôle de la lipoprotéine A dans les guidelines canadiens de cholestérol. Alors, j'ai un petit peu l'algorithme en face de moi, puis je vous invite tous à le trouver sur le site de la Société canadienne de cardiologie. Mais en fait, vraiment, en prévention primaire, eux, ils l'utilisent même chez les patients à bas risque. Comme tu as dit, à partir de 40 ans, on devrait le faire une fois. Et que certains patients, par exemple, même ils ont un score Framingham bas et qui ne cotent pas, mais avec une lipoprotéine élevée ou certains autres facteurs de risque, ça pourrait être des candidats à une thérapie à statine, bien sûr, en discutant avec le patient des risques et des bénéfices et de venir à une décision partagée à ce sujet-là. Et ils l'utilisent aussi chez les patients avec un risque intermédiaire, chez qui on hésite, on n'est pas sûr si c'est le bon moment à commencer une statine, mais avec une lipoprotéine élevée, ça peut nous donner l'élan pour l'amorcer et de viser des cibles plus basses. Et bien sûr, en prévention secondaire, il n'est pas dans l'algorithme, mais je suis d'accord avec ton approche que moi, pour moi, un patient qui a une lipoprotéine A élevée, malgré tous les cibles atteintes, s'il y a de la place à augmenter la statine ou ajouter les étimibes, ça serait quelque chose que je considérerais et je discuterais avec le patient. Merci d'avoir écouté le dernier épisode du balado « Écoutez votre cœur ». Nous espérons que vous avez aimé vous plonger dans le monde des LDL en explorant le rôle et les effets de la lipoprotéine A sur le syndrome coronarien aigu et la maladie cardiovasculaire athérosclérotique. Si cette discussion a été utile pour votre pratique clinique, n'hésitez pas à en faire part à vos collègues en cliquant sur le bouton « Share » « Partager ». Et n'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur Apple Podcasts ou Spotify pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Merci de vous joindre à nous et à la prochaine.